Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute! Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion, on aime aborder tous les sujets qui vous touchent, dont un qui revient souvent est la confiance en soi. Saviez-vous que l'acné arrive en tête des complexes physiques chez les femmes comme chez les hommes? Et l'acné à l'âge adulte peut saper toute confiance en soi. Si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec 2 fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants, naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections. Acide salicylique, niacinamide et polyphénol. Retrouvez une belle peau pour vous lancer en toute confiance dans tous vos prochains projets. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Louis.
Dans le Larousse, il y a 2 degrés de définition au mot marâtre. D'abord, deuxième épouse du père par rapport aux enfants du premier mariage, synonyme belle-mère. Et puis, mère dénaturée, mauvaise mère. Selon la définition numéro 1, je suis une marâtre. Mais du coup, la définition numéro 2 pique un peu. Car oui, on pense à l'horrible marâtre de Cendrillon dont les activités principales sont de réduire sa belle-fille en esclavage et de l'humilier. Et à celle de Blanche-Neige qui carrément essaie de la tuer, 2 fois. Selon l'INSEE, en 2018 en France, près d'une famille sur 10 est recomposée. Ça fait donc beaucoup de marâtres. Et je suis prête à parier que la quasi-totalité de ces femmes a déjà entendu parler de Blanche-Neige et de Cendrillon. Le regard que pose la société sur les belles-mères n'est pas tendre, surtout lorsqu'on sait que ces dernières ont une charge domestique et familiale souvent plus lourde que la moyenne. À cette pression s'ajoute une dimension dont on parle assez peu, l'injonction à aimer. Être belle-mère aujourd'hui implique de se désolidariser des marâtres, de prouver au monde entier qu'on est une bonne personne, une quête effrénée de légitimité qui passe par un amour forcément inconditionnel pour ses beaux enfants. Tout ça avec un dosage millimétré. Dans son livre « Comment ne pas devenir une marâtre », la journaliste Fiona Schmidt écrit au sujet des belles-mères. Il s'agit donc pour elle d'être ni trop, ni trop peu, de faire ce que font les mères mais sans se prendre pour elles, ni espérer les reconnaissances qu'on leur témoigne, et d'en être satisfaite pour ne pas opprimer les membres de la famille recomposée. Et franchement, on ne le dit pas assez, c'est dur. Dans cet épisode, la journaliste Milia Legaza se demande si on peut et si on doit aimer tous les membres de sa famille. Elle y étudie la complexité de l'attachement et les nombreuses injonctions sociales dont on est souvent victime lorsqu'on essaye de faire famille. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
Partager un moment tous ensemble. Tu comprends? Et on ne pourra pas, parce que si vous arrivez plus tard, vous ne faites rien avec nous. C'est juste ça. En fait, c'est pas vrai. Mais c'est. Je propose de lever la
Tout est parti de là, de cette cacophonie. On vit ensemble au quotidien, on est ce qu'il faut bien appeler une famille ou du moins selon les mots de l'INSEE, un ménage, mais est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que, juste parce qu'on vit ensemble, on s'aime? Tout est parti de là, de chez moi, de mon vécu, de cette famille autour de cette table que vous venez d'entendre. Cette famille dite « recomposée » avec ses 5 enfants entre 7 et 13 ans. Cette famille que je n'avais pas forcément imaginée comme ça, trop d'enfants, trop de différences, trop d'intendances. Et cette question qui s'est immiscée doucement dans ma vie, comme une petite vague, est-ce qu'on est vraiment obligé de tous s'aimer ? L'amour au sein de la famille ne coule pas forcément de source. Le problème, c'est que c'est difficile de l'assumer. Le ressentir, c'est souffrir un peu. Le dire, c'est presque déjà briser un tabou. Et c'est précisément ça qui m'intéresse. Comment peut-on vivre en famille sans s'aimer au sens viscéral et naturel où on l'entend habituellement ? Moi, ce qui m'a fait du bien dans un premier temps, c'est de réaliser que je n'étais pas toute seule dans ce cas-là. Pas toute seule à ne pas savoir quoi faire de mes émotions négatives, de mon hostilité. Pas toute seule à me demander « est-ce qu'on peut se forcer à aimer ?» Une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce sujet, c'est Alice. Alice, je l'ai vue pour la première fois dans sa voiture sur le parking de la gare de Poitiers. Elle venait me chercher pour l'interview, pas hyper rassurée à l'idée de me raconter son histoire. Celle d'une jeune femme, à peine sortie de la fac, qui rencontre un homme, un peu moins jeune qu'elle, via les réseaux sociaux. Elle en tombe amoureuse très vite et réalise, tardivement, que le prendre lui, dans sa vie à elle, c'est aussi prendre son fils.
Je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, un coup de cœur. Il y a eu un truc qui s'est passé entre nous et on s'est plus quitté en fait. Voilà, donc je sais qu'il a un petit garçon, il m'en parle souvent, mais pour moi c'est pas un souci en fait. Je vois pas j'aime bien les enfants. Je travaille même avec des enfants. Je trouve ça chouette. Je me dis bon, ben pourquoi pas. Ça part papa, en plus, je trouve ça plutôt charmant. Ça me dérange pas, je vois pas le souci qu'il peut y avoir avec ça. Un soir, je viens chez lui, son fils dormait. Et ce moment m'a particulièrement marqué, je pense, à vie. Parce que du coup, il me dit, bah tiens, si tu veux, je te le montre. Donc voilà, je rentre dans la chambre et je vois ce petit garçon dormir. Et là, ça a été les grandes eaux pour moi. J'ai pleuré. Je sais pas. C'est comme si ce petit garçon, je savais qu'il y aurait quelque chose qui se passerait, en fait. C'est comme si, enfin, je peux pas expliquer, en fait, ce qui s'est passé. C'est très instinctif. Mon copain ne comprenait pas, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je le trouve magnifique. Il est tellement beau. Puis voilà, j'étais touchée, en fait, de le voir. Et donc, du coup, je suis sortie de là en me disant, bah, ça va être beau, quoi. On va vivre un truc super chouette. J'ai envie de l'aimer, ce petit garçon. J'ai vraiment envie de l'aimer. J'ai envie d'être, voilà, pas sa maman, je la serai jamais, mais j'avais envie d'avoir une place, voilà, d'adulte en qui il pourrait avoir confiance, bienveillante. J'avais vraiment envie d'être, voilà, cette personne-là qui pourrait, construire une famille avec eux.
L'histoire d'Alice, c'est celle de beaucoup de monde aujourd'hui. C'est celle de ce qu'on appelle une recomposition familiale. Mais dans le fond, c'est surtout une histoire de famille tout court, qu'on idéalise et dans laquelle on se projette. Une famille au sein de laquelle l'amour serait une évidence. Comme si, bien évidemment, parce qu'on aime un homme ou une femme, on aime ses enfants. Comme si, parce qu'on aime son frère ou sa sœur, on aime son conjoint. Autrement dit, comme si on allait tout naturellement aimer tous les membres de la famille juste parce qu'ils en font partie. Sauf que, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il arrive qu'on prenne conscience que l'amour n'est pas né là où on l'attendait. Ou en tout cas, qu'il prenne une forme différente de celle qu'on attendait. Parce que l'amour n'est pas univoque, monolithique. L'amour, c'est un sentiment plein de nuances.
Il n'y a pas de consensus véritablement sur ce que c'est que l'amour. Donc c'est un sentiment très fort, qu'il est extrêmement difficile et délicat de définir, justement parce qu'il prend des formes multiples.
L'homme que vous venez d'entendre, c'est Gérard Nérand. Il est sociologue, il a passé sa vie à étudier les liens de parentalité, de fraternité et tous les troubles qui pouvaient y être liés. Et en gros, ce dont il est sûr, c'est que, si l'amour ne se force pas, le fait de prendre soin des autres, et en l'occurrence des bébés humains quand ils naissent, ça, c'est indispensable au bon développement de l'enfant.
Ça crée des dysfonctionnements très importants. Ce que, justement, Spitz a montré à partir de 1945, avec son idée de syndrome d'hospitalisme, c'était que les enfants qui ne bénéficiaient pas de cette attention portée vers eux et de cette qualité relationnelle, pouvaient développer des troubles psychiques très graves, qu'il a regroupé donc sous ce terme d'hospitalisme, et certains bébés, ça pouvait les amener à la mort, parce qu'ils ne se sentaient pas accueillis dans notre monde, et ils n'avaient plus de raison de vivre. Donc, il y a nécessité, effectivement, pour que le développement de l'enfant se passe de toute façon tout satisfaisante, qu'il y ait au moins une personne, évidemment c'est mieux quand il y en a plusieurs, mais qu'il y ait au moins une personne avec laquelle l'enfant va entretenir une relation régulière sur une base de bienveillance de cette personne à son égard.
Il appelle ça les sentiments positifs. C'est l'idée que si l'on ne bénéficie pas au minimum de ce sentiment positif à la naissance, alors notre bon développement sera entravé. Sur ce point, la science est formelle. Une commission avec des gynécologues obstétriciens, des pédopsychiatres, des psychologues, des sages-femmes, des profs d'université s'est même créée en 2019 pour rédiger un rapport, et il est très clair. Les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant constituent une période cruciale pour les premiers apprentissages, le développement cognitif et affectif et la sociabilité. Pas le choix donc que d'aimer un nourrisson, quitte à se faire aider pour y arriver, quitte à passer la main. C'est sa vie qui en dépend. Catherine Audibert est psychologue clinicienne, auteure de plusieurs livres tels que « L'incapacité à être seule », »,« Essais sur l'amour, la solitude et les addictions » ou encore « Amour et crise dans la famille recomposée ». Elle aussi, je l'ai rencontrée, et elle aussi, elle a insisté sur l'importance d'être aimée quand on est tout petit.
On a bien vu, avec des expériences déplorables qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais enfin bon, qui ont existé quand même il y a peu de temps, par exemple, à la chute de Ceaușescu, les pouponnières qu'on a ouvertes, on a trouvé des enfants qui étaient dans un état abandonique très avancé, parce qu'ils n'avaient eu que des soins concernant leurs besoins, comme la nourriture, le sommeil, tout ce qui permet de survivre finalement. Mais ils n'avaient pas eu d'amour, ils n'avaient pas été choyés, ils n'avaient pas eu une présence affectueuse auprès d'eux. Et donc ces enfants, pour certains, mouraient, pour d'autres avaient un retard très important.
Cette expérience dont parle Catherine Audibert, c'est celle des orphelinats découverts en Roumanie à la chute du mur de Berlin. On y a trouvé des milliers d'enfants, abandonnés et maintenus jusqu'à l'âge de 3 ans, dans des établissements où ils étaient tout juste nourris et privés de tout lien affectif. On les appelait les enfants du diable, en référence au dictateur roumain Ceaușescu qui avait généré ce drame humain. Il voulait que les plus forts s'en sortent. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup se sont laissés mourir. Ce que ça met en évidence, c'est que ce qui est important, c'est le fameux sentiment positif à l'égard d'un enfant dont nous parlait Gérard Nerand. On est loin de l'amour dévoué au sacrificiel. D'ailleurs, le sociologue nous le rappelle, par le passé, cette question de l'amour, on se la posait beaucoup moins.
Bon, il faut quand même rappeler qu'au début du 19e siècle, à l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents, près d'un quart des enfants mouraient à la naissance ou lors de la première année. Un autre quart mourait avant d'atteindre l'âge adulte. Donc il y avait une expression qui rendait compte de cela, c'était « il faut deux enfants pour faire un adulte ». Donc évidemment, avec une telle mortalité infantile, il valait mieux ne pas trop s'attacher à ses enfants, surtout quand ils étaient petits. Donc le statut de l'enfant n'était pas celui qu'il peut avoir aujourd'hui. Donc on avait beaucoup plus d'enfants, il fallait pas trop s'y attacher, et en plus, la psychanalyse et les approches de ce type n'étaient pas encore apparues ou étaient encore assez peu connues, et on n'avait pas conscience d'une telle importance du lien affectif pour le bon développement de l'enfant lorsqu'il était petit.
Depuis donc, Freud, Dolto et la psychanalyse sont passés par là. Freud, en travaillant sur le langage du corps, a identifié plusieurs stades de développement chez l'enfant, des étapes propres à tous pour grandir. Mais ce qu'a introduit Françoise Dolto, elle aussi psychanalyste, spécialiste de la petite enfance et pédiatre, c'est l'idée que l'enfant est un être humain à part entière. Et ça, ça change tout. C'est là que le basculement s'est opéré. Peut-être à l'excès. Gérard Néron explique très bien comment on en est arrivé au stade de l'injonction à aimer.
Aimer les membres de sa famille, c'est une véritable injonction sociale. Ça fait partie des normes relationnelles à l'intérieur de la famille, ce qui n'a pas été toujours le cas, loin de là. Il n'y a pas si longtemps, se marier n'impliquait pas forcément qu'on soit amoureux. Dans la plupart des cas, le lien affectif se créait peu à peu avec la vie commune. Mais ce n'était pas forcément nécessaire pour se marier et pour fonder une famille. Aujourd'hui, la fondation du couple est quasi exclusivement basée sur l'amour. Alors, sans qu'on sache exactement ce que c'est, mais sur un amour conjugal, qui est au début plutôt passionnel et puis ensuite évolu. L'amour de ses enfants est là aussi une injonction. Depuis quand même les années 70, au moins, il y a eu dans nos sociétés occidentales tout un discours de valorisation de l'enfant et du rapport à l'enfant qui fait que l'enfant a été quasi sacralisé. C'est-à-dire que si on n'aime pas ses enfants, on est dans une situation considérée comme anormale, qui risque d'être stigmatisée, d'être mal vécue par les personnes, évidemment. Et socialement aussi mal accepté.
Résultat, aujourd'hui, l'amour filial est institutionnalisé. Même la justice s'en est mêlée. Dans la loi française, le parent ne peut pas rompre les liens avec son enfant.
Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est plus le lien marital qui est inconditionnel et indissoluble. Ça a été transféré sur le lien à l'enfant qui est devenu inconditionnel et indissoluble. Et donc la justice a émis tout un ensemble de lois qui visent à maintenir ou à affirmer le principe de coparentalité. Donc dans cette vision-là, la coparentalité, c'est le maintien du lien de l'enfant à ses deux parents, quel que soit sa situation maritale, donc y compris en cas de séparation conjugale. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur cette valorisation du lien parent-enfant qui est considérée comme indissoluble et doit être maintenue, même si les parents sont séparés.
Et ce lien, il oblige tout le monde à composer. Dès le départ, Alice comprend qu'il va falloir faire avec.
Je ne suis pas forcément super à l'aise, je ne sais pas trop mettre. Je sens qu'à la fois, il a une part de lui, il est content de me rencontrer, et il y a une part de lui où je sens qu'il n'est pas super content que je sois là. Et je suis très mal. En fait, à ce moment-là, j'ai vraiment quelque chose qui se passe de me dire, mais j'ai envie de construire quelque chose, et à la fois, je sens, au travers du regard de cet enfant, parce que je suis très sensible aussi, probablement, mais je sens qu'il y a un truc en moi qui se passe de... où je sens que lui, il n'est pas très à l'aise de me voir là, et où je sens que... est-ce que je suis à ma place, en fait? Ma vraie question, c'est est-ce que je suis à ma place? Le premier rendez-vous, déjà, est compliqué pour moi. Dans ma tête, c'est compliqué. Parce que je perçois déjà deux parts en moi, et c'est un peu là... ça fait mal au ventre, quoi.
Le mal de ventre, c'est le premier symptôme d'une sensation hyper désagréable qu'Alice n'arrive pas encore bien à nommer. Symptôme qu'elle va clairement mettre sous le tapis, sciemment ignorer pour vivre son histoire d'amour avec le père de cet enfant.
Ce petit garçon, il est demandeur, que je viens d'habiter là-bas. Donc effectivement, je déménage assez rapidement chez eux, au bout de 6 mois, à peu près. Et là, ce petit garçon, à la fois super content et à la fois, il y a quelque chose quand même qui se brise en moi. Parce que j'ai plus d'espace, j'ai plus d'échappatoire, en fait. Parce qu'à la fois, il me demandait beaucoup, et puis à la fois, du coup, son père se décharge beaucoup sur moi. C'est-à-dire que du coup, je fais aussi le... Je prends une place... Que je voulais pas prendre, en fait, mais je dis oui pour plaire, je dis oui parce qu'à la fois j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'être là, et je fais. Et à la fois je me sens pas vraiment à ma place, et puis j'en veux des fois à mon compagnon de à la fois pas prendre le relais et à la fois pas être cadrant, en fait. Je me rappelle de scènes où là il balance le ketchup à travers la scène et il dit à son père ramasse. Et son père dit rien. Et c'était hyper violent pour moi de passer des journées complètes comme ça avec un enfant qui est pas le mien. Mais ouais, du coup, moi, ma place, là, des fois, il y a eu des soirs où je prenais ma voiture, je partais, je roulais, j'ai même dormi une fois dans ma voiture, en fait.
Pour Alice, on sent bien que le choc est violent. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Sur Internet, les groupes de discussion sont nombreux et les témoignages pas toujours bienveillants. On y lit des ras-le-bol basiques, du désespoir, de la colère, et bien souvent de l'impuissance et de la culpabilité. En préparant l'épisode, j'ai pu parler avec beaucoup de femmes dans ce cas-là. Parce que oui, parlons-en, ce sont souvent, voire exclusivement des femmes qui acceptent de parler de ça. Comme si les hommes ne se sentaient pas concernés ou moins concernés. Ce constat mériterait un podcast à lui tout seul. Je ne vais pas m'y attarder, mais il se joue peut-être là quelque chose d'intéressant qui en dit long sur la répartition inconsciente des rôles entre les hommes et les femmes au sein des foyers, et sur nos façons, à chacun, d'appréhender l'amour. Ce qui est sûr, c'est que bon nombre de ces femmes souffrent. Sur son blog « La douceur des hérissons », Sarah recueille les témoignages de belles-mères en grande souffrance psychologique, et ça donne ça.
La brosse à dents dans la salle de bain, le nom sur la porte de sa chambre, les dessins sur le frigo. Je suis monstrueuse, je sais, mais quand je les vois, j'ai comme un couteau dans le cœur, je ne me reconnais pas. Je ne me comprends pas.
Je ne comprends pas. Quand ils sont là, je ne me sens plus chez moi. Le programme télé, les repas, la place sur le canapé, les activités. J'ai l'impression de ne plus avoir de place du tout dans tout ça.
Les photos de sa fille dans notre maison, j'ai honte de le dire. Mais je ne supporte pas. Ça me fait mal. Je me sens oppressée.
L'une d'entre elles m'a avoué, je ne pouvais pas l'aimer, c'était même pire que ça, je lui en voulais d'exister. Ça rejoint le témoignage d'Alice, qui souffre, finalement, atrocement presque, de ne pas ressentir d'amour. Comment se fait-il que de ne pas parvenir à aimer au sein de sa famille soit source d'une telle souffrance ? Catherine Audibert, la psychologue clinicienne, a rencontré des centaines de femmes, de couples et de familles, et cette violence émotionnelle, elle l'a très souvent repérée. Comme un schéma classique.
Il y a tout un tas de choses comme ça qui vient s'exacerber dans les premiers temps. Enfin, peut-être pas tout à fait dans les premiers temps, parce qu'il y a une espèce de période comme ça où on a l'illusion que tout va rouler parfaitement, que tout se passe super bien, comme dans les pubs où on voyait la famille récorée, là, le matin au petit déjeuner. Mais il y a un moment où tout ça s'exacerbe et prend effectivement des proportions parfois très violentes. C'est vrai que le moment de la découverte de ces affects qui sont liés au fait que personne ne trouve encore sa place dans cette famille, ça peut être très très violent et très douloureux.
J'ai pas de verre.
Non, le verre, c'est pareil. C'est encore des notions de politique.
Maman, je prends ton verre. Je peux avoir ma carafe d'eau, s'il vous plaît.
La famille Ricoré, donc. Derrière le gros cliché avec ses gros sabots se cache quand même ce petit rêve secret qu'on a tous, celui d'une famille qui ne soit que joie et amour. Ce rêve, brisé, une femme en a fait un livre, intitulé « Famille recomposée, l'envers du décor », qu'elle a signé du nom de Anne Chaplin. Mais en vrai, elle ne s'appelle pas comme ça. Un anonymat revendiqué qui sous-tend la notion de malaise et valide l'idée de tabou. En préambule, elle écrit « Je donnerais cher, très cher, pourvu qu'elle ne mette plus les pieds chez nous, ne plus vivre avec une boule d'indifférence ou d'hostilité, ne plus me faufiler d'une pièce à l'autre pour l'éviter. » Ne plus supporter cette ambiance délétère, comme un drame qui se retient. Je donnerais cher, très cher. Ils m'ont beaucoup marqué ces mots, d'abord parce que c'était le début de mes recherches et que je n'avais pas encore pris la mesure des réticences, des blocages et des difficultés à vraiment vivre ensemble qui existaient dans certaines familles. Ensuite, ils m'ont beaucoup marqué parce qu'ils sont aussi un aveu d'impuissance. Une façon de dire « je jette l'éponge, je ne l'aime pas, je ne vais pas me forcer ». Ça peut sembler dur, de prime abord, mais passé ce cap, ça questionne. Comment gérer émotionnellement l'absence d'amour à l'égard de quelqu'un que le sens commun nous impose d'aimer ? À ce sujet, Catherine Audibert apporte une réponse assez radicale.
C'est un problème que la société puisse penser que parce qu'on est en famille recomposée, on est censé aimer les enfants de son conjoint. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une reconnaissance du fait que l'amour ne se commande pas. Il peut se développer sur le terrain, justement, qui lui est le plus favorable. Mais il ne s'impose pas. Et on ne peut pas l'exiger. Et à partir de là, je pense que ça peut soulager quand même beaucoup de gens de savoir ça et leur permettre de vivre une recomposition de manière plus harmonieuse. Mais il y a vraiment une culpabilisation qui est à l'endroit des femmes, des belles-mères, plus que des beaux-pères d'ailleurs, une culpabilisation des beaux-parents qui ne se montrent pas tout amour pour leurs beaux-enfants.
Cette expérience de culpabilisation, Alice l'a vécue. Elle est passée par cette forme d'ambivalence qu'elle décrit très bien.
J'ai deux parts en moi très puissantes qui se tapent dessus l'une sur l'autre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a une part qui a énormément d'amour pour cet enfant, qui a énormément d'amour pour mon compagnon, qui a envie de énormément de contribuer, de faire une famille, d'être là pour les uns, pour les autres, qui a envie d'être une belle personne et qui se dit que pour être une belle personne, il faut aimer tout le monde. Enfin voilà, j'avais... Et il y a une autre part, en fait, qui ressent du rejet, qui a le sentiment de pas du tout aimer cet enfant, qui ne supporte pas son comportement, qui ne supporte pas ce qu'il lui renvoie, en fait. Le fait de... Ce sentiment de pas exister pour ce que je suis, mais d'être un peu en substitution, à la place de... Et ce qui était compliqué aussi, c'était que c'était dans un endroit où elle avait habité. Dès qu'il vient, j'ai le sentiment... que sa mère vient avec. Et j'ai le sentiment que sa mère non seulement vient avec, mais en plus, c'est comme si je n'existais plus, qu'elle était au-dessus de moi, parce qu'en plus, je suis pas maman, moi, donc je la perçois, elle, comme étant beaucoup plus grande, beaucoup plus... Enfin, voilà, j'ai plein de plus, plus grand, plus mature, plus plein de choses. Elle a eu un enfant, voilà, et puis avec une longue histoire aussi avec mon compagnon, donc je me dis, mais tout ce qu'ils ont vécu, moi, je suis rien à côté, quoi. Et il me renvoie tout ça, en fait, quand il rentre, il me renvoie tout ça. Et c'est largement accentué parce que j'ai envie de bien faire aussi et que du coup, je m'affirme pas forcément moi, je m'écoute pas moi, en fait, à ce moment-là. J'écoute pas ce qui se passe en moi, j'écoute pas ni mes émotions, ni mes besoins profonds, j'écoute pas ce que je ressens, j'ai juste envie que ça marche. Et donc, je dis des oui en pensant beaucoup de non.
Les frustrations et les déceptions s'accumulent. Elle n'arrive pas à aimer franchement et ça la rend malade.
Émotionnellement, je souffre. Ça se traduisait par le matin quand il se réveillait par exemple très tôt. Il appelle son père qui bien sûr ne se réveille pas. Une fois, deux fois, moi je suis épuisée parce que forcément j'ai pas dormi la nuit parce que la situation m'est tellement difficile et douloureuse que je dors plus de toute façon. Et donc je suis épuisée et donc j'essaie de réveiller le papa une fois... Deux fois. À la troisième fois, il râle et il se lève. Et moi, je suis excédée, en fait. Je suis excédée parce que je me dis, mais purée, mais il pourrait pas dormir un peu plus. Enfin, j'en peux plus, je suis fatiguée. En plus, voilà, il s'est réveillé deux fois dans la nuit, à son âge quand même, c'est pas normal. Enfin, voilà, Et à ce moment-là, j'ai plein de pensées, en fait, qui viennent et je me lève pas le matin. Du coup, je laisse mon compagnon se lever, s'occuper du petit, puis je les entends rire, je les entends jouer pendant que moi, je suis en souffrance dans le lit en train de pleurer. De pleurer toutes les larmes de mon corps, parce qu'à ce moment-là, je me sens seule, je me sens horrible, je me sens monstrueuse, et j'ai juste une envie, c'est de partir. Et en même temps, je me sens pas de partir pour ça. Je me dis, mais cet homme, je l'aime, quand il n'y a pas son fils, j'en vis des moments incroyables. Comment c'est possible que je laisse tout tomber pour ça, alors que c'est moi le problème, je suis un monstre de pas réussir à aimer ce gamin.
Alice souffre de ne pas aimer. Et moi, j'y vois la preuve que l'injonction à aimer produit de la culpabilité et déséquilibre tout le monde. Ce que j'ai donc voulu demander à Catherine Audibert, c'est Est-ce que ne pas aimer un enfant peut vraiment lui causer du tort ?
Comment cet enfant qui a une belle-mère qui dit ne pas l'aimer va se construire psychiquement ? C'est difficile à dire parce que il y a des enfants qui, a posteriori, voilà, en grandissant, racontent leur histoire d'enfance dans une famille recomposée d'une façon tout à fait différente de ce que peut raconter le beau-parent qui, de son point de vue, a vécu les choses, évidemment, tout à fait différemment. C'est un mystère. On peut en dire quelque chose que des années après, quand les gens racontent leur enfance.
Et justement, dans mon tour de France des histoires de famille, j'ai rencontré une femme qui en avait du recul sur son histoire et qui a pu me raconter ce qu'elle avait vécu enfant. Cette femme, c'est Camille. Dès le départ, j'ai été frappée par sa douceur qui contrastait avec son histoire digne de Cendrillon.
Je suis née en 83. J'ai un début de vie, on va dire, les 4 premières années qui sont, je crois, pas très faciles. C'est avec mon regard d'adulte que je dis ça, hein, mais parce que j'avais une maman qui était dépressive, qui a fait beaucoup, beaucoup de tentatives de suicide et qui a fini par y arriver quand j'allais avoir 4 ans. Donc en septembre 87, et moi j'allais avoir 4 ans un mois plus tard. Et je pense qu'au milieu de tout ça, bah voilà, c'était donc un deuil qui a touché toute une famille. Et mon père rencontre très vite une autre femme, parce qu'il voulait pas être seul, disons les choses comme elles sont. Et parce que, voilà, s'occuper de 2 enfants en bas âge, moi j'avais donc 4 ans, mon frère 7 ans. Donc il rencontre une femme à qui il... je pense que son désir est vraiment de lui déléguer l'éducation de ses enfants. Et elle... dans un premier temps, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse de prendre ce rôle-là. C'est un rôle de maman, en fait. Et nous, mon frère et moi, on est très heureux d'avoir une maman, une nouvelle maman. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, je dis à qui veut bien l'entendre que j'ai 2 mamans, que j'ai une maman du ciel et puis que j'ai la maman de sur Terre qui s'occupe de moi. Et je le vois comme ça, et c'est vrai que mon frère et moi, on a envie de la gâter, on demande des sous à tout le monde pour lui offrir des fleurs. Je pense qu'on est un peu dans une démarche de séduction, on a envie de lui plaire.
Et c'est précisément ce qui m'intrigue le plus. Cette envie d'être aimée, cette envie de plaire, en général, ça existe des deux côtés, mais elle n'aboutit pas naturellement à un lien d'amour réciproque. Camille, depuis sa position d'enfant, cherchait à tout prix à investir sa relation avec sa belle-mère.
Moi, je suis une petite fille de 5, 6, 7 ans. J'y crois. Et je ne l'appelle pas maman parce que mon frère me dit non. Parce que je lui demande un jour. Je lui dis, mais elle s'appelait Coco. On l'a surnommée Coco. Et je lui dis, si on l'appelait Coco, parce que c'est bon, maman, elle est morte. Hein, donc, il n'y en a pas. Enfin, elle ne va pas revenir. Je lui dis, elle ne va pas revenir. Et du coup, si on appelait Coco maman. Et lui, il a une espèce de mouvement de recul et il me dit mais n'importe quoi. Enfin, on n'a qu'une maman, elle est au ciel et puis c'est tout. Enfin, et du coup, c'est mon grand frère, donc c'est quand même lui qui a le dernier mot, quoi. C'est lui qui sait. Et moi, je suis petite, donc je fais ce que mon grand frère me dit de faire. Mais à l'époque, moi, je la ressens comme telle, en fait. C'est ma maman d'ici, en fait. C'est la maman de la maison, quoi.
Camille me dira aussi, après l'interview, plus tard dans la soirée, autour d'une bière, qu'elle était assoiffée d'amour. Mais il ne viendra pas.
On pouvait croire, tant qu'il n'y avait pas d'autres enfants, qu'en fait c'était comme ça qu'on élevait des enfants, qu'elle élevait ses enfants, qu'il y avait des règles à respecter, que c'était... Et sauf qu'une fois qu'il y en a eu un à elle, on a constaté que c'est comme ça qu'elle voulait nous élever, nous, mais que c'est pas comme ça qu'elle l'élevait, lui. Il y avait toujours ce truc de « mais vous êtes grand, c'est normal », et lui, il est petit, sauf que la différence se marque par tellement de choses. Par exemple, chez nous, il y avait les goûters pour mon frère et moi, c'était un paquet de biscuits pour la semaine, et puis il y avait les goûters pour mon frère, et c'était pas les mêmes, c'était des goûters de marque, enfin voilà. Il avait le droit de choisir ce qu'il avait envie comme goûter, alors que nous, de toute façon, vous... si on vous achète des choses que vous aimez, vous allez tout manger. Donc, et tout se marquait comme ça. Et moi, il a fallu, en fait, que il y ait des copains d'école qui viennent à la maison. Donc, quand j'étais ado, au collège, et qui me disent que c'était délirant. Enfin, et que tout d'un coup, je me dise, ah ouais? Et ça venait que illustrer quelque chose qu'elle formulait par ailleurs, sans se rendre compte que nous, on était là et qu'on entendait. Où elle a pu dire, ah, mais moi, de toute façon, mon bonheur, c'est mon mari et mon fils.
Cette histoire de goûter m'a beaucoup marquée, parce que être un enfant, par définition, c'est être vulnérable et dépendant. En abuser de ça, c'est abuser de sa position d'adulte référent. Et la conséquence directe, pour Camille, ça a été une difficulté à se construire.
J'ai perdu du temps, je crois, et beaucoup d'énergie, et j'en perdrai encore, parce que rien n'est fini, à essayer de reconstruire un peu tout cet égo d'enfant qui a été un peu maltraité, à force de s'entendre dire que j'étais pas une bonne personne, que j'étais pas aimable, que je sentais mauvais. Tout ça, mon intégrité intellectuelle, physique, intellectuelle pas non, parce que elle me disait souvent que j'étais intelligente, mais que j'étais méchante. Enfin voilà. Et mon frère, lui, il était bête, mais il était gentil. On était très. Et donc, ça m'a pas bousillée parce que je sais pas pourquoi. Mais non, ça m'a pas bousillée. Ça m'a pas aidée. Voilà. Ça m'a pas du tout aidée. Ça m'a. J'ai l'impression de lutter souvent encore avec ça dans mes relations avec les hommes, avec les femmes. Il y a comme quand même toujours une petite retenue quoi en moi, cette sensation que ça peut faire du mal quoi d'aimer.
La belle-mère de Camille avait manifestement du mal à aimer les enfants de son mari. Si ce rejet est assez connu à ce stade, il est important aussi de souligner que ce désamour peut aussi toucher les géniteurs. Des géniteurs qui souffrent de ne pas aimer suffisamment leur enfant. C'est 1000 fois plus tabou que tout ce qu'on vient de dire jusque-là, mais ça existe. Petit à petit, ça sort même du silence. Les témoignages sont le plus souvent anonymes, mais la parole se libère. Le livre « Mal de mère », écrit par Stéphanie Thomas, paru cette année en 2021, met la lumière sur ces femmes qui affirment regretter le fait d'être mère. Avant elle, et pas anonymement, il faut quand même le souligner et saluer son courage, l'autrice Constance Debré l'avait fait aussi. Dans son livre « Love Me Tender », publié chez Flammarion, qui raconte comment elle a perdu la garde de son fils, elle écrit en introduction « Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer? Pourquoi on ne pourrait pas rompre? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre, une fois pour toutes, de l'amour. » Son livre m'a transpercé le cœur. On y sent à la fois une grande fragilité et une forme de désespoir. Désespoir de ne pas aimer plus, ou comme il faut. De ne pas réussir à se plier aux exigences sociales, de répondre aux critères attendus. Et pourtant, il n'y a pas de normes évidentes dans ces histoires de liens affectifs.
Les géniteurs ne sont pas des parents. C'est-à-dire, les géniteurs, ce sont des gens qui biologiquement produisent un enfant. Donc ça les prédispose à avoir une relation d'attachement à l'égard de l'enfant, hein, mais la parentalité, la relation entre l'enfant et ses parents se construit. C'est un processus dynamique qui évolue et qui demande à ce que l'enfant et ses parents s'adoptent réciproquement, psychiquement. Et que donc, une autre personne qu'un parent biologique peut tenir une place parentale sans aucune difficulté, hein, ce qui explique que les bébés adoptés par des parents adoptifs développent le même type de relation à l'égard de ses parents que le font les bébés qui sont élevés par leurs parents biologiques. Et la deuxième caractéristique des attachements, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être forcément tous mis en place à la naissance, ils peuvent se réaliser à un âge plus avancé à partir du moment où la personne avec laquelle l'enfant est en contact a une importance pour lui et lui apporte quelque chose. Donc il y a une construction, les relations sont d'une construction et elles sont évolutives. Donc on peut avoir un rapport d'attachement de type parental avec un enfant qui n'est pas son enfant biologique sans aucune difficulté. Ça dépend de la position d'investissement que l'on a à son égard.
En creux, bien sûr, c'est la question de l'amour maternel qui se pose. Et Gérard Nérand démêle un peu cette question ô combien ressassé pour nous.
C'est difficile de parler d'instinct parental, hein, y compris de l'instinct maternel. Elisabeth Badinter, dans les années 80, quand elle a fait paraître son livre sur l'amour maternel, justement, l'amour en plus, hein, elle a essayé de montrer que l'instinct maternel, c'était une notion culturelle et que ça n'existait pas, qu'il y a effectivement, et là aussi les pédopsychiatres le rappellent, il y a des parents et des mères qui ne ressentent rien à l'égard de leur enfant. Ça, j'ai travaillé à une époque avec des pédopsychiatres et psychanalystes sur la prévention psychique précoce et j'ai rencontré donc une mère qui avait eu une psychose postpartum, qui avait eu deux jumelles dont elle s'occupait très bien à la naissance, mais elle ressentait rien à leur égard. Elle m'avait dit, je m'en occupais parce qu'il fallait s'en occuper, mais j'avais pas de sentiments à leur égard. Et donc, elle a suivi une thérapie qui lui a permis de développer par la suite un amour à l'égard de ses enfants, et après, ça a pu poser de problèmes.
Apprendre à vivre ensemble, à faire attention aux autres, à leurs besoins, à leurs émotions. Ce seraient donc ça, les fondamentaux d'une éducation réussie. Et Catherine Audibert me l'a confirmé.
L'enfant peut bien grandir s'il est dans un environnement bienveillant. Ce n'est pas finalement la personne qui est attaquée par l'enfant, c'est plutôt la place que cette personne prend. Donc il faut aussi que les adultes comprennent ce que les enfants peuvent être en train de ressentir et leur laissent le temps aussi de s'habituer. Et au bout d'un certain temps, chacun va trouver sa place comme ça.
Créer du lien et trouver sa place, pas si facile en pratique. Alice a eu beaucoup de mal.
Je dirais pas qu'on a recréé du lien, parce qu'en fait, depuis le début, je vivais ma souffrance complètement cachée. C'est-à-dire que bien sûr qu'il devait le ressentir, bien sûr qu'il doit le ressentir à ce moment-là, que je suis pas bien. Et qu'il a pas les moyens à son âge de mettre des mots sur « elle est pas bien ». Et que peut-être, ça je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, il se sent peut-être un peu responsable, j'en sais rien. Mais par contre, dans mes actes, je suis là pour lui, je m'occupe de lui, je lui montre pas. Mais en fait, c'est justement toute cette énergie à pas lui montrer qui fait que moi j'explose et que je me détruis, en fait. Parce que je passe beaucoup, beaucoup d'énergie à pas lui montrer. Je passe beaucoup d'énergie à être là pour lui. Du coup, d'ailleurs, je ne m'écoute absolument pas. Et moins je m'écoute, plus lui, il en demande, plus il en demande, moins je m'écoute, et plus le rejet augmente. Et je lui en veux, en fait. Dès que son fils venait, j'avais la haine contre mon compagnon. Mais la haine, c'était vraiment même pas de la colère, j'avais de la haine. Je le voyais plus comme un allié, je le voyais comme mon ennemi. Comme si c'était lui qui allait me détruire, en fait. C'était très violent. Et là, j'utilise des mots violents, mais c'est pour être très juste par rapport au ressenti que je pouvais avoir. J'avais la rage. Je suis pas maman... J'ai pas d'enfant, je pourrais avoir une vie complètement libre, sans contrainte. Oui, du coup, à ce moment-là, le couple, il en prenait une sacrée claque, parce que mon compagnon, lui, il a envie d'être un super bon papa, il a surtout pas envie de perdre son fils. Et puis, il a mal aussi de me voir mal, mais il voit pas comment m'aider ou comment être là pour moi à ce moment-là.
Pendant l'enregistrement d'Alice, j'étais sidérée par la puissance de sa souffrance, la violence de ses émotions et la façon qu'elle avait de subir les choses. Comme si tout ça la dépassait complètement. Comme si elle était envahie par une émotion 100 fois plus grosse qu'elle et qu'elle ne savait vraiment pas quoi en faire. Elle souffre de ne pas trouver sa place, de ne pas aimer. Et la douleur liée au fait de ne pas y arriver, forcément, elle a des conséquences sur toute la famille. Alors que, d'après Catherine Audibert, avant d'envisager l'amour, il faut placer le respect.
Tout part du respect qu'on se doit à l'autre quand on vit ensemble. On peut se dire qu'on n'est pas obligé d'aimer, que l'amour viendra peut-être ou pas, mais en tous les cas, on peut tout faire pour respecter l'autre. Et ça, je pense que c'est déjà à l'intérieur du couple qu'il faut poser ces bases-là. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui devient belle-mère, elle doit être soutenue par son mari. Le respect, ça veut dire peut-être passer par des espèces de conseils de famille, voilà, où on se réunit tous et puis on se dit ce qui ne va pas. ce qui fonctionne pas, ce qui peut blesser, ce qui peut sembler injuste pour certains. À chaque fois que j'ai proposé ça dans les familles qui étaient en souffrance, ça a plutôt bien marché, ça a donné des résultats. On se dit les choses assez ouvertement, que ce soit les sentiments, que ce soit les choses plus matérielles, le fonctionnement, les règles de vie à la maison. Mais je pense qu'il faut vraiment une bonne cohérence dans le couple pour que ça puisse être possible aussi.
Pour Alice, la situation s'est débloquée quand elle a réussi à accepter ses émotions et quand elle a pu en parler.
Accepter à un moment donné, et d'ailleurs je me souviens du jour où ça a été un déclic, où j'ai dit à mon compagnon, je m'excuse vraiment, je suis profondément désolée, je sais que ça va te faire du mal, et je suis pas fière de ce que je vais te dire, j'en souffre, mais je crois que je l'aime pas et je crois que j'y arriverai jamais. Ça a été un déclic, c'est-à-dire qu'à peu près le lendemain, dans la semaine d'après, rien que le fait de pouvoir s'autoriser à le dire, en fait, ça m'a libérée d'un 38 tonnes que je me traînais, et c'est là que j'ai pu effectivement peut-être activer quelque chose et me dire, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de vivre.
Bah, c'est important, oui, de le reconnaître et peut-être de le formuler, de se le formuler dans le couple, parce qu'effectivement, c'est source de culpabilité, d'un sentiment de culpabilité, mais c'est aussi dû au fait que quand une femme devient belle-mère, elle est déjà affublée de quelque chose de très négatif. Sous le terme marâtre, c'est vraiment l'image de la mauvaise mère, de la sorcière, de celle qui veut se débarrasser des enfants. Donc évidemment, c'est difficile de pouvoir dire « je n'éprouve pas d'amour pour cet enfant-là ou ces enfants ». Mais en même temps, quand on le dit, ça soulage peut-être quelque chose dans le couple. Ça permet aussi que les sentiments se transforment, parce que quand on essaye de les refouler ou de les cacher, c'est beaucoup plus difficile que quelque chose se transforme. Il y a quelque chose qui se bloque, au contraire. Et reconnaître ça et peut-être le dire, ça permet aussi que d'autres femmes le reconnaissent et se sentent soulagées par cette reconnaissance-là. Parce que ce déni ou ce refoulement n'aide pas du tout les femmes à pouvoir créer des liens avec les enfants de leur conjoint.
Sortir du déni et du refoulement pour être en capacité de créer avec cette personne une relation saine. Voilà l'objectif, construire une relation qui ne nuise à personne. L'enjeu, il est là. Et c'est probablement ce qui a manqué à Camille dans sa relation avec sa belle-mère.
J'ai mis longtemps avant de me rendre compte que ça avait pu m'impacter. J'ai mis 35 ans et plusieurs thérapies. Et comment je me suis construite ? Je me suis construite comme quelqu'un qui n'est jamais tout à fait légitime à être là où elle est, qui ne mérite jamais tout à fait l'amour qu'on lui donne, qui n'est jamais tout à fait sûre de l'amour qu'on lui donne, qui ne mérite pas de prendre trop de place. Et que d'une façon générale, oui, l'amour, ça se mérite. Et il faut être un peu aussi avec un truc de... un tyran, un peu de perfectionnisme. De, si tu ne sais pas faire les choses parfaitement, alors ne les fais pas. Parce que sinon, tu vas te confronter aux gens qui vont te dire que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire.
Au bilan, Camille a souffert, mais de quoi ? De ne pas être aimée ou d'être mal aimée ? En tout cas, c'est cette souffrance qui peut expliquer le besoin, en grandissant, de certains enfants de couper les ponts avec leurs parents ou beaux-parents. Briser un lien de famille peut se révéler salutaire. Alice, elle, a réussi non pas à briser le lien, mais à se défaire de cette obligation d'aimer cet enfant. Avec le temps, elle a même, presque, trouvé une forme d'harmonie.
Alors, harmonie, je sais pas, je ne sais pas si on peut parler d'harmonie. En tout cas, on a un équilibre et on a un mode de communication aujourd'hui qui fait qu'on se comprend et qu'on peut se relier. En fait, on peut ne pas être d'accord. On peut à un moment donné, peut-être qu'avec des mots de certaines personnes, on pourrait dire peut-être des fois on s'aime pas. Mais c'est pas s'aimer. Des fois, on n'est juste pas d'accord. En fait, on est juste pas. Il y a certains comportements en fait, effectivement, qu'on va pas aimer, mais que ce soit lui par rapport à moi. Moi, des fois, que peut-être je lui renvoie ou ça l'agace. Mais en fait, je suis OK avec ça maintenant. Et inversement, d'ailleurs, je pense que lui, c'est pareil. Il est OK avec le fait que parfois, je suis pas non plus tout le temps, hein, toute love-love avec lui et qu'il y a des fois où ça peut être compliqué.
On peut donc finir par s'aimer un peu, comme cette femme qui m'a dit qu'elle aimait bien les enfants de son conjoint. Et ça peut marcher aussi avec votre beau-frère, votre sœur ou votre gendre. Mais on ne peut décidément pas introduire la notion de devoir dans l'amour. Ça, c'est une illusion.
Je ne sais pas si c'est une question d'assumer, mais en tout cas, c'est une question d'accueillir. Pour moi, c'est vraiment une question d'accueillir ça et d'être OK avec soi-même en disant, effectivement, cet enfant-là, j'arrive pas à avoir de l'amour. Pour moi, la belle-mère, elle peut choisir en conscience ce qu'elle veut pour sa famille. Et si juste, à un moment donné, le truc de se dire, mes neveux, je les aime beaucoup plus, pourquoi pas, en fait. Moi, j'arrive pas à voir quel est le problème là-dedans, si elle est heureuse, si ses beaux-enfants, ils le vivent bien, si le compagnon, il le vit bien. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans une société, justement, où on crée plein de nouvelles familles. Famille, ça veut plus dire qu'une seule chose. Et famille, ça veut pas forcément dire tout le monde s'aime. Mais même dans des familles classiques, d'ailleurs, si on est très honnête et transparent, je crois que même dans des familles classiques, tout le monde s'aime pas, en fait. La problématique des familles recomposées peut d'ailleurs apporter ça comme richesse. Que même quand on est dans une famille classique, on n'est pas obligé de s'aimer. L'amour, de toute façon, ne se contrôle pas, ne se dirige pas, ne se commande pas. On peut faire le choix d'essayer d'être au moins respectueux, ou d'essayer d'entrer en empathie, ou de comprendre, ou d'essayer d'ouvrir notre cœur à la personne. Voilà, c'est ouvrir notre cœur. Ça, on peut faire le choix d'ouvrir le cœur. On ne peut pas choisir d'aimer.
Enfant, Camille est restée longtemps dans cette illusion. Mais depuis, ironie du sort ou reproduction des schémas, elle est aussi devenue belle-mère, oui. Cendrillon a grandi, fait des enfants avec un homme, puis trouvé son prince charmant, un prince avec un enfant, quand elle en avait déjà deux. Inversion des rôles, envie irrépressible de ne pas reproduire, cette période n'a pas été facile non plus, mais elle l'a trouvé, sa place. Et elle a un petit élément important à ajouter, un élément qui lui tient à cœur, forcément étant donné son histoire, l'idée que, même si l'amour n'est pas là, on peut en revanche toujours bien se comporter.
On ne peut pas se forcer à aimer. Ça, j'en suis convaincue. Parce que l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de la raison. Donc, par contre, on peut se forcer à bien se comporter avec quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut se forcer à être respectueux. Il faut se faire aider, mais on peut y arriver. Mais on ne peut pas se forcer à aimer. Aimer, c'est un élan du cœur et je ne vois pas comment on peut créer ça, mais je vois pas comment on peut forcer l'amour.
Dire qu'on n'aime pas sans détruire. La manœuvre est délicate, certes, mais ne pas reconnaître qu'on n'aime pas, c'est se nier. L'équilibre à trouver, c'est peut-être d'accepter et même de se dire, comme une délivrance, un soulagement, qu'on ne s'aime pas, mais qu'on ne se veut pas de mal.
Venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Milia Legaza. Elle vous faisait entendre les témoignages de Alice et Camille et les explications de Gérard Nérand et Catherine Audibert. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maude Benakcha est la chargée de production d'Émotion, accompagnée de Agathe Le Taillandier et Capucine Rouault pour cet épisode. Charles de Cilia en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas De Gélis qui a composé le générique d'Émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous vous interrogez sur comment se construisent les relations dans les familles recomposées, vous pouvez écouter la saison 2 de Entre, dans laquelle j'ai donné la parole à mes deux beaux enfants. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts. Travail en cours, passage, injustice, fracas, une autre histoire, entre ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'aimerais vous parler du podcast Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL dans lequel des médecins se confient sur les cas les plus marquants de leur carrière. Chaque histoire dévoile toutes les phases émotionnelles, psychiques, de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente, mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Bref, si vous cherchez un podcast, écoutez Symptômes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.